et le dimanche à 23h.
Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Pourquoi quatre fois bonjour? Parce qu'il fait au moins quatre fois plus beau aujourd'hui qu'il faisait la semaine dernière. Enfin, hein, 27 avril 2026. Belle journée aujourd'hui. On annonce tout le monde, écoutez bien ça, jusqu'à 23 degrés dans le sud du Québec. Bon, ça y est, Mathieu Tessier, notre régisseur. Je te dis qu'il y en a. Ils trouvent toujours le temps de pas être le moment de ne pas être content, eux autres. Hein? On est bien, bien au Québec avec nos chialeurs, pour ne pas dire les râleurs, comme on dit en France. Mais bon, ça va, on te pardonne. On t'aime.
Parce que vous nous avez chialé. Je vais arrêter.
Oui, depuis le début, oui, parce que moi, j'aime pas l'hiver, vraiment. Hey, j'ai entendu la belle voix de Daniel Rioux. Alors, Daniel, juste pour te dire aussi, dans ton coin, il va faire beau. En Ontario, c'est un petit peu moins chaud, sauf dans l'est de l'Ontario. C'est toujours un petit peu plus frisquet dans les provinces atlantiques. Et dans l'ouest, ben, c'est encore un peu pas mal beaucoup l'hiver, sauf en Colombie-Britannique. Bon, j'arrête ça là. Daniel, comment ça va?
Ben ça va très bien, ben comme vous avec la belle météo, mais surtout moi je suis un peu comme Mathieu, j'aime l'hiver, j'aime le frais, mais j'aime pas nécessairement la chaleur. Mais bon, on va arrêter de chialer. mais à cette temps-ci de l'année, on pense à sortir des couleurs, hein, nos vêtements colorés et tout. Puis c'est le propos de ma chronique aujourd'hui, mais dans un autre sens que le vestimentaire, c'est que est-ce que on va se poser la question, est-ce que les couleurs influencent notre humeur? Alors, je vais vous faire une découverte de vous-même en technicolor.
Ah bon. Vous savez que moi, je m'habille en noir, puis quand arrive l'été, ben c'est du noir un peu plus pâle.
Ben, il n'y a pas de problème. Vous aimez le noir, ben c'est ça. Puis ça peut être un référent.
Oui.
On ne sait pas.
On ne sait pas. Louis Bernis.
Bonjour, Denis Martin.
Aujourd'hui, on va parler à l'insolite.
Oui, on ira sur et sous l'océan. Une insolite d'abord concernant les croisières. Ça, je ne savais pas que c'était possible, mais les croisières, parfois, changent d'itinéraire un peu au dernier moment. Donc, il y a eu un couple, un paquebot entier qui devait aller dans les Bermudes et finalement s'est retrouvé dans des eaux beaucoup plus fraîches au début de mois au large du Nouveau-Brunswick.
Wow, les logements, les vêtements colorés, là, ça ne suffisait pas, je pense.
Non, il fallait des vêtements chauds, effectivement. Ouais. Et puis, une autre insolite un peu plus sérieuse, un peu plus préoccupante aussi, toujours dans l'eau, les saumons. On sait que la biodiversité est affectée par les traces de médicaments ou de drogues qu'on retrouve dans l'océan. Et bien, il y a des études qui commencent à montrer que les saumons, leur comportement est influencé par la présence de drogue, malheureusement.
Oui, dans les égouts qui se retrouvent dans l'environnement, tout à fait vrai. Et puis nous, à l'émission, on va parler du festival Accès Asie, là, qui se déroule très bientôt ici à Montréal. On va parler d'Altergo avec Dominique Tremblay, qui va nous parler donc de ce festival de sport. Et entrevue téléphonique avec Christian Laporte, on va parler de la pièce L'arme de Ploz au Prospero. Très intéressant comme sujet. Alors aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est le 27 avril. L'Église catholique célèbre la Sainte Zita. Zita, ouais. Servante italienne du 13e siècle, connue pour sa piété, sa charité et ses miracles. Elle est la patronne des domestiques et des femmes de ménage et est souvent invoquée pour aider à retrouver des objets perdus. Bon, on saura quoi faire à l'avenir. Puisqu'on est en Italie, continuons. En 1945, le dictateur fasciste Benito Mussolini, il est capturé par ses partisans italiens et le lendemain, il est assassiné, il est exécuté. Puis on dit que c'est fini la domination fasciste en Italie, bien que certains pourraient poser des questions sur le gouvernement actuel, mais je ne me prononce pas là-dessus. Afrique du Sud, premières élections multiraciales qui aboutissent à l'élection de Nelson Mandela comme président marquant la fin de l'apartheid et le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique du Sud. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée nationale de la liberté en Afrique du Sud. Et puis, naissance en 1791 de... naissance en 1991 de Samuel Morse, qui veut dire SOS. Et puis moi, je veux dire que samedi 25 avril, c'était l'anniversaire d'une personne très, très importante pour nous. Et on lui dédie aujourd'hui, vous allez savoir de qui je parle, la chanson suivante.
Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment oublier
tellement de souvenirs. Nos jeux dans les vagues près du quai. Je n'ai vu le temps passer. L'amour sur la plage désertée. Nos corps brûlés enlacés. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas. Helen, thing to do. Make me crazy about you. Pourquoi tu pars? J'ai tant besoin d'une amie. Helen, things you do make me crazy about you. Pourquoi tu pars si loin de moi? Là où le vent te porte, loin de mon cœur. Reste encore juste une nuit. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas. Dans ton pays loin là-bas. Dans ton pays loin de moi.
Ah, je peux le dire. Donc, c'est la version symphonique de Helen avec Rock Voisine et puis la participation de Cœur de Pirate. C'est pour souhaiter un bon anniversaire à notre très chère Helen Denis. Bonne fête, Helen. On pense à toi. Elle sera de retour demain à l'animation de cette émission. Maintenant, c'est le temps de passer aux actualités. D'abord, douche froide. Hein, c'est toutes les unes des journaux ce matin au Centre Bell. Hier soir, le Canadien a laissé filer une avance de 2 buts pour s'incliner 3-2 face au Lightning de Tampa Bay. Zachary Bolduc et Cole Caulfield avaient pourtant soulevé la foule en début de match, mais la réplique des visiteurs a été implacable. Et donc, le Lightning s'est relevé en troisième période pour gagner la partie. Alors, cette série se transporte maintenant à Tampa ce mercredi pour un cinquième affrontement. Dans les copes de l'information, une onde de choc secoue le milieu des résidences pour aînés. Ce matin, au Québec, une caméra cachée installée par une famille inquiète a révélé des images bouleversantes du traitement réservé à leur mère en RPA. On y voit des employés brusquer la résidente, ignorer ses appels à l'aide et faire preuve d'une négligence physique grave. Cette enquête soulève une nouvelle fois l'urgence d'un meilleur encadrement et d'une surveillance accrue dans les établissements privés. Le ministère de la Santé a déjà annoncé une enquête administrative immédiate pour faire la lumière sur ces comportements inacceptables envers nos aînés. Dans toutes les unes aussi, le suspect de l'attaque survenue samedi soir au Washington Hilton, identifié comme Cole Thomas Allen, à 31 ans, originaire de Californie, il doit donc se présenter aujourd'hui devant la justice. L'individu, lourdement armé d'un fusil, d'un pistolet et de couteau, a forcé le périmètre de sécurité avant d'ouvrir feu près de la salle de bal où se trouvait le président Donald Trump. Les autorités ont intercepté des écrits du suspect envoyés à sa famille juste avant l'assaut, dans lesquels il se qualifiait de tueur fédéral amical et dénonçait les politiques de l'administration états-unienne. Bien qu'un agent de sécurité ait été touché, sauvé par son gilet pare-balles, aucune blessure n'est à déplorer. Le président et les hauts dirigeants présents ont été évacués sains et saufs et l'événement qui devait célébrer la liberté de la presse a finalement été annulé. Et puis toujours relativement à cet attentat de samedi, dans Politico, lors de son passage à l'émission 60 Minutes dimanche, le président Donald Trump a d'abord relaté avec calme son évacuation du Washington Hilton, admettant avoir retardé le Secret Service par curiosité. Cependant, l'atmosphère a bousculé lorsque la journaliste Nora O'Donnell a cité le manifeste du tireur, Cole Allen, qui qualifiait la cible de pédophile, violeur et traître. Le président a alors éclaté en sa colère et il a dénoncé le choix de la journaliste de lire ses extraits. « J'attendais que vous lisiez ça, dit-il, parce que vous êtes des gens horribles. » Fin de la citation. S'indignant d'une possible allusion à ses liens passés avec Jeffrey Epstein, bien que le nom n'ait jamais été prononcé, il a fermement clamé son innocence face à ses accusations. Visiblement piqué, il a balayé les questions d'O'Donnell du revers de la main, qualifiant les médias de honte et les accusant d'être un relais pour des inepties d'un malade mental plutôt que de respecter l'institution présidentielle. Et puis alors que tout ça se déroule à Washington, bien la première ministre Christine Fréchette entreprend aujourd'hui sa première mission à l'étranger dans la capitale américaine. La première ministre du Québec donc participera à une série de rencontres à 2 mois à peine du début officiel des négociations concernant la révision de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, donc 1er juillet. Et puis aujourd'hui, on va apprendre finalement, ça va être confirmé, qu'Alexandre Boulris, député fédéral de Rosemont-la-Petite-Patrie, compte dévoiler donc ses plans à propos de son avenir politique. Selon des sources internes à Québec solidaire, M. Boulris tenterait de se faire le saut en politique québécoise en se présentant sous la bannière de ce parti dans la circonscription de Gouin à Montréal lors des élections de l'automne prochain. Il voudrait succéder à l'actuel député solidaire de Gouin, Gabriel Nadeau-Dubois, qui a annoncé son départ de la vie politique à la fin de son mandat en octobre. Le nouveau Parti démocratique perdrait donc ainsi son seul député du Québec et ne compterait plus que 5 élus à la Chambre des communes.
Les rayons font des danses sur ton corps, baby. J'ai oublié on est dans quel pays. Je sais pas si tu doutes encore. Sucré salé comme les vagues, je pourrais être ton otage. Je sais pas si tu doutes encore. Baby, tu me testes, chasse mes complexes. J'ai besoin de plaire, faut que j'oublie mon ex. Je veux faire des excès, ma nuit est parfaite. On parle en sous-texte, on fait nos succès. Faut que j'oublie mon ex, faut que j'oublie mon ex. Faut que j'oublie mon ex, next, next. Faut que j'oublie mon ex, faut que j'oublie mon ex. J'ai attrapé le sunset, je l'ai mis dans mes proses. J'ai changé tous mes réflexes, j'ai arrosé les roses. J'ai goûté au vrai love jusqu'à l'overdose. J'ai pensé mille fois m'en faire loin de toi pour revenir à l'aube. J'ai peur de ce que ça pourrait tenir nous deux. Mon cœur a reçu trop de balles, faut qu'il prenne du mieux. J'ai peur qu'ensemble on s'emballe, je redoute tes yeux. Je sais pas si ça fait trop mal ou c'est pour le mieux. Baby, tu me testes, chasse mes complexes. J'ai besoin de plat, faut que j'oublie mon mec. Je veux faire des excès, la nuit est parfaite. On part en tout. Faut que j'oublie mon ex, faut que j'oublie mon ex, faut que j'oublie mon ex, next, next. Faut que j'oublie mon ex, faut que j'oublie mon ex, faut que j'oublie mon ex, next, next. Faut que j'oublie mon ex, faut que j'oublie mon ex, faut que j'oublie mon ex, next, next. Faut que j'oublie mon ex, faut que j'oublie mon ex, faut que j'oublie mon ex, next, next. Oh, oh, quand tu bouges, je veux tes yeux. Je veux voir à quoi tu penses. Oh, oh, pour oublier, y'a rien mieux. Je veux réduire la distance. Oh, oh. Baby, dis-moi ce que tu veux. Savoir si j'ai de chance. Oh, oh. J'avais pas prévu nous deux. Na, 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 na. Faut que j'oublie mon ex. 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 Faut que j'oublie mon ex.
Laurence Nerbonne et sa chanson Next.
faut que j'oublie mon ex. Mais moi, je vais y aller dans cette blague-là. Mais effectivement, moi, dans mon cas, tous les ex, je pense qu'on pourrait le chanter encore plusieurs fois. Il faut que j'oublie mon ex parce qu'il y en a plusieurs. Bon, OK, on arrête ça. On va parler de couleurs. C'est mieux de parler de couleurs que de parler d'amour, des fois.
Ben, on va parler d'arc-en-ciel.
Eh, hey, pourquoi
ouais.
pas?
Hein, why not? Donc, c'est un article paru dans l'édition de la revue Psychologie du mois de mars dernier. Et puis, c'est des couleurs. Est-ce que les couleurs influencent notre humeur? La couleur est un pouvoir qui influence directement l'âme. C'est ce qu'écrivait le peintre Vassili Kandinsky, qui était persuadé que les teintes vives et éclatantes de ses toiles provoquaient une résonance émotionnelle immédiate. Bon, les couleurs, ça peut être associé à une fête, ou encore, ça peut être apaisant, ça peut être doux ou éclatant, ou encore chaleureux ou plus froid, puis s'associer aussi à d'autres événements, des fois moins drôles. Mais pour l'historien Michel Pastoureau, ben, c'est un grand spécialiste du sujet, notre rapport aux couleurs est d'abord une affaire de mode et d'époque. Il nous rappelle, puis je vous rappelle, dans les années 70, il y avait cette idée un petit peu naïve, selon lui, que les couleurs vives et les contrastes violents allaient égayer la vie. Alors, on s'est mis à habiller les trains en orange et à faire des cuisines vertes, pommes ou marron, puis vous vous souvenez des réfrigérateurs et cuisinières jaunes, verts, que nos mères faisaient retravailler. Je ne sais pas si vous avez connu ça.
Oui, j'ai connu ça. Moi, je suis assez vieux pour... j'étais enfant à l'époque, puis c'était les couleurs dans la cuisine.
Ben oui.
Et j'avoue que ça ne me rendait pas plus joyeux le matin. Mais il faut dire qu'à l'époque, j'étais adolescent. Les adolescents, c'est rarement joyeux le matin.
Et puis, ben, on est revenu au blanc parce que c'est plus intemporel. Puis Michel Pastoureau continue en disant, lorsque je vois des magazines qui titrent sur le retour des couleurs au printemps, hein, les compagnies de peinture qui nous rappellent, voici la couleur tendance, ça, c'est mon petit aparté. Ouais. Lui, il trouve ça absurde car elles n'étaient pas absentes pendant l'hiver, ces mêmes couleurs-là. Et beaucoup de personnes aiment aussi les teintes plus sombre, plus triste. Dans les enquêtes d'opinion, le gris est loin d'être le plus mal placé parmi les couleurs. Si nous sommes de meilleure humeur au printemps, ben c'est d'abord, affirment les scientifiques, c'est parce que c'est plus lumineux. Et c'est là que c'est important pour nous. Les jours rallongent aussi et le soleil est plus présent et fait ressortir le bleu du ciel, le vert tendre des feuilles, le rose des pruniers en fleurs et tous les autres arbres, les lilas. On a juste à penser à toutes les couleurs qu'on voit apparaître, les crocus. Hein?
Mais c'est la lumière. Je pense que tu as raison, c'est la lumière. Parce que je rappelle aux gens que lorsqu'il fait beau l'hiver, même s'il fait froid, quand il y a beau soleil, le ciel est d'un bleu incroyable et puis on est heureux.
Ben, on est heureux, c'est ça. Je pensais justement à la même chose que vous, un beau moins 25 avec un soleil
radieux. OK, on va s'entendre, moins 25, c'est un peu beaucoup, là. Mais...
je rejoins Mathieu, là. Alors, la luminosité, on y revient. Le côté plus ou moins clair ou foncé fait partie des trois dimensions qui créent une couleur, avec la saturation, brillant ou plutôt pastel, et la teinte rouge, vert, bleu. C'est ce que rappelle Déborah Epicoco, qui elle est psychologue cognitive et chercheuse à l'Institut de psychologie de l'Université de Lausanne. Il est prouvé scientifiquement que la luminosité a un impact sur notre bien-être. D'ailleurs, davantage que les teintes en elles-mêmes, c'est donc sans doute leur luminosité qui influence notre humeur. D'après les études qui ont été menées dans plus de 70 pays et en plus de 45 langues, les correspondances entre couleurs et émotions sont similaires, quel que soit l'âge, le genre ou la langue. C'est ce que résume Déborah Epicoco. Le bleu, le jaune ou le rose évoquent souvent des émotions positives, alors que le noir, le gris et le brun sont plutôt connotés négativement. Mais il s'agit d'associations cognitives, pas d'effets émotionnels immédiats. Voir du jaune nous fait souvent penser à la joie, ce qui ne veut pas dire que nous allons forcément en ressentir de la joie. Hein? Donc, ces associations sont malgré tout souvent utilisées en communication pour renforcer un message ou transmettre tout simplement certaines valeurs. Il y a la nuance des émotions. Ces correspondances quasi universelles entre couleurs et émotions s'expliquent peut-être par la mondialisation qui uniformise nos goûts et nos références ou encore pour des raisons biologiques liées à notre évolution. la couleur, elle, a toujours été une caractéristique visuelle que l'humain a utilisée pour survivre. Par exemple, est-ce que puis-je m'approcher si c'est telle couleur? Est-ce que je peux manger cela? On pense au vert. Si le vert est considéré comme apaisant, c'est sans doute parce que nous l'avons associé au cours de notre évolution à ce qui nous permettait de nous nourrir, par exemple, les légumes ou encore la nature. Une équipe de recherche, d'ailleurs, une équipe de recherche japonaise a fait une recherche et a fait porter à ses patients anxieux des lunettes vertes pendant une ponction intraveineuse. Ben, ils ont montré, ces candidats, moins de signes physiologiques de stress et rapporté moins de douleurs que ceux qui portaient des lunettes transparentes. Voyez-vous? Alors, le rouge évoquait l'apaisement. Le rouge, lui, il évoque la passion amoureuse, hein, le cœur rouge, mais aussi la colère, le sang et l'interdit. On a juste à penser au feu de circulation. C'est rouge interdit de passer. D'ailleurs, le rouge, c'est la seule couleur qui a réellement une influence sur notre système physiologique et qui fait réagir les nourrissons lorsqu'elle leur est présentée, selon Déborah et Picoco. C'est générateur de stress. Ça rehausse notre seuil attentionnel. Le rouge, justement, est associé à des panneaux de signalisation routière ou au feu rouge ou encore aux corrections de stylo de la maîtresse. On se souvient, hein? Quand on avait beaucoup de rouge sur notre copie, c'était pas un bien, bien bon signe. On a appris aussi depuis toujours qu'il pouvait indiquer un danger, ce qui a aussi infusé dans la sémantique. On dit voir rouge, être dans le rouge à la banque, ça, c'est pas drôle. Ou bien, plus récemment, faire attention aux red flags dans une relation. À l'inverse, d'autres expressions accentuent l'aura positive associée à certaines couleurs. On dit voir la vie en rose, être blanc comme neige, avoir carte blanche. Blanche. À tout ça, les couleurs, il y a des associations aussi culturelles. Dans le monde occidental, depuis plus d'un siècle, le bleu, la couleur bleue, est la préférée peut-être pour des raisons culturelles. En Occident, on a grandi avec l'idée que le bleu était apaisant et le rouge, lui, excitant, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays, selon Michel Pastoureau. Les peuples du Grand Nord, par exemple, qui sont saturés de blanc, sont apaisés lorsqu'ils voient une couleur différente, comme le rouge. Donc, ça les réjouit, ça. Si on va en Afrique subsaharienne, aussi, le rouge est plutôt calmant, alors qu'on n'aime pas beaucoup le bleu. C'est une couleur très rare qui renvoyait plutôt à l'Européen, le colonisateur. Donc, on n'aime pas cette couleur-là, ça, vraiment. Les personnes vivant dans des pays pluvieux seraient aussi plus susceptibles d'associer le jaune à la joie, puis au soleil en même temps, que celles qui vivent dans les pays ensoleillés et où le jaune est davantage lié à la sécheresse. Donc, ils n'aiment pas vraiment. L'impact d'une couleur dépend de la personne qui la regarde, de son environnement, mais aussi de son histoire personnelle. Si vous vous sentez apaisé par le bleu, c'est peut-être aussi par association émotionnelle, parce que le bleu vous rappelle les vacances au bord de la mer, le bleu de la mer et votre jeunesse. À l'inverse, si vous avez été hospitalisé durant l'enfance, ben, ce qui est blanc est synonyme de sarro, est synonyme de médecin, est synonyme de piqûre aussi. Alors, l'enfance compte énormément dans le rapport que nous avons adultes aux différentes couleurs, affirme Michel Pastoureau. Pour sa part, lui, il déteste les couleurs qui brillent. Il pense, ça lui fait penser à cette couleur à la grand-mère d'un de ses amis qui était une femme assez méchante et toujours couverte de bijoux et de bracelets. Alors, lui, il n'aime pas ce qui est paillettes et bling-bling. À nos teintes préférées, nous renvoie notre histoire à nos valeurs. Par exemple, à la manière dont nous souhaitons nous présenter aux autres. Ici, on a l'exemple de Charlène, qui aime porter des soutiens-gorge rouges vifs sous ses vêtements, plutôt sages, ses vêtements. Comme pour elle, personne ne les voit, mais elle se sent de bonne humeur et elle se rend plus puissante et elle passe pour une femme un peu fatale. Et on passe aussi parfois toute une vie à se réconcilier avec une couleur qui émet qu'on aimait bien instinctivement, mais qui ne correspondait pas à l'image que l'on souhaitait renvoyer. On pense aux roses pour les filles, hein. Faut s'habiller en rose, pas en bleu pour les petits gars. Alors, donc.
Ça change,
on veut...
ça, en passant.
Ben, ouais, c'est ça. Puis on veut s'éloigner de ce symbole, de ce stéréotype-là, hein. Alors, porter du rose, ça veut dire qu'on n'est pas si forte que ça. Donc, mais ici, il y a une jeune femme, Coralie, qui, elle, a dit, ben, avec le temps, j'adore le rose et je le porte fièrement parce que ça n'a rien à voir avec le fait que je suis bonne ou quoi que ce soit. Ça n'a pas d'étiquette pour elle. Pour porter certaines couleurs, il faut quelquefois du recul par rapport aux injonctions sociétales. Des mères, parfois, font passer des messages à leurs enfants, hein? Comme tu es blonde, ben tu peux pas porter du rouge. Comme tu es rouquin, tu peux pas porter telle couleur, etc. Donc, il y a aussi certaines familles où on ne portait que du bleu marine, du noir ou du blanc. C'était ça qu'on portait à la maison. C'est important de prendre conscience aussi de ses croyances pour s'en détacher et revenir aux teintes vers lesquelles nous portait spontanément notre intuition. Il y a Hélène Baudran qui, elle, a des clientes. Elle les aide à déterminer la palette de couleur qui va bien avec leur teint, leurs yeux, les cheveux, les lèvres et les contrastes de leur visage. Alors, pour elle, on peut porter du rouge, du vert, du jaune ou du violet, à condition de trouver dans chacune de ces couleurs la nuance qui sera nous mettre en valeur. La colorimétrie est une invitation à s'accepter sans se comparer. Hélène Baudran qui renchérit aux autres, puisque chacun a une palette de couleurs différentes. Et par exemple, il y a beaucoup de timides qui vont se cacher, par exemple, derrière des vêtements de couleurs vives pour éviter de montrer leur douceur ou leur vulnérabilité. Ça, c'est intéressant. Et certaines vérités scientifiques. Les couleurs qui nous font du bien sont d'abord liées à notre histoire personnelle et à notre intuition. Les chercheurs et les chercher est aussi un chemin qui nous aide à mieux nous connaître et à renforcer notre énergie. Et moi, je suis allée faire un petit tour vitement pour pas prendre tout le temps dans les couleurs. Par exemple, le noir, c'est associé à la mort, à l'affliction.
En Occident.
Attendez un peu. Ben, en Occident, oui. En Occident, le noir peut dire représenter le luxe et l'élégance aussi.
Ah, d'accord.
Oui, l'Europe, oui. Dans les pays d'Afrique et du Moyen-Orient, ça représente la noblesse. Mm-hmm. Également, l'illégalité, le mystère, la sournoiserie, l'escroquerie. On pense au vert en Occident, c'est une couleur qui symbolise l'espérance et la chance.
Et l'écologie.
Ben oui, absolument. Puis la couleur est très présente dans le monde musulman, si on va dans les pays et en Chine et en Inde, entre autres, en Asie, en Inde, il indique la pureté et l'harmonie. Oui. Puis au Japon, c'est la teinte du futur. Et alors qu'en Chine, on l'associe à la tromperie. Alors vous voyez, au niveau culturel, on associe des couleurs à différentes raisons. Alors puis le jaune était la couleur de l'empereur. C'est peut-être pour ça que le roi Louis XIV s'appelait le roi soleil.
Ouais.
Hein, le jaune.
Ça s'arrêter là-dessus, mais moi, je vous le dis tout de suite, je vais essayer de mettre des couleurs. Mais je me rappelle toujours de mon complet que j'ai porté à mon bal de finissant.
Oh.
Il était bleu ciel. Oh. C'est clair que j'en mettrai plus jamais ça de ma vie. On va arrêter ça ici. Après la pause, Louis de Bernis, et puis on va aussi parler du Festival Accès Asie. Merci beaucoup, Daniel Rioux.
Au revoir.
Et puis profitez de la journée, il va faire beau aujourd'hui.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Les
Wizard de la chanson Main dans la main.
J'ai l'impression quand que les sons musicaux, Mathieu, ça, j'ai l'impression qu'on retourne un peu dans ce qu'on écoutait. Ah non, t'es peut-être encore trop jeune, mais dans mon temps, il y avait des petites, tu sais, je pense à...
Ben, ouais. Beethoven?
Non, quand même. Il est mort quelques années avant ma naissance. Bon, on va aller dans l'insolite, on va arrêter de rire de tout le monde et de moi en particulier. Louis de Bernice, bonjour. On va aller faire une petite croisière aux Bermudes.
Bah, c'est ce qui était prévu et finalement non. Ça, c'est une chose que j'ai découverte avec cet article. Parfois, les croisières ne suivent pas l'itinéraire prévu, mais pas du tout. Des portes complètement.
Est-ce qu'ils se trompent d'itinéraire?
Alors, pas trompés d'itinéraire, non. C'est bien prévu. C'est une mésaventure, mais qu'ils ont pris avec le sourire, qui est arrivé à de nombreux vacanciers, mais en particulier Jade et Ian McHugh, qui ont documenté ça sur leurs réseaux sociaux et qui ont rencontré un certain succès. Ils s'avouent sans voix face à la situation qu'ils ont vécue. Leurs vacances aux Bermudes de ce jeune couple américain étaient prévues de longue date, mais ces vacances ont pris une tournure assez inattendue finalement. Les valises étaient bouclées et elles étaient même déjà en transit lorsqu'ils ont été informés d'un changement de programme de dernière minute par la compagnie Virgin Voyage. Les conditions de navigation à destination de l'archipel tropical des Bermudes étant mauvaises, pour des raisons de sécurité, la croisière au soleil s'est transformée en expédition dans les eaux un peu plus froides, dans les eaux canadiennes, rapportent plusieurs médias. Le couple assure avoir été informé par courriel 2 jours seulement avant le départ prévu le 6 avril dernier, en début de mois, alors qu'ils avaient déjà confié leurs valises à des proches partis un peu plus tôt. Au lieu des Bermudes, nous irons dans le nord du Canada et à St. John's et au Nouveau-Brunswick. Nous vous prions d'emporter quelques couches de vêtements supplémentaires, écrit la compagnie. Nous allons dans l'Arctique, s'est exclamé alors le mari, mi-désabusé, mi-amusé par cette nouvelle. C'était si proche du 1er avril, raconte-t-il, qu'au début nous avons cru à une blague, vu le ton assez désinvolte du courriel. Mais un appel au service client de Virgin nous a permis de nous rendre compte que ce n'était pas une blague et qu'il allait falloir s'y faire. Le couple a choisi de tourner cette croisière en dérision en postant un carnet de voyage très second degré, très documenté, avec de nombreuses vidéos chaque jour sur Instagram, qui sont devenues assez virales. Hein. L'une compte par exemple plus d'un million de vues, donc l'algorithme l'a proposé. Ian et Jade assurent n'avoir eu d'autre choix que de subir cette croisière qui s'imposait à eux. Ils refusaient de nous rembourser le voyage, disent-ils, alors que nous avons décidé de partir quand même, parce que sinon nous aurions perdu les vols, les hôtels, les places de stationnement que nous avions déjà réservées pour la croisière. Les vacances n'ont évidemment pas eu la saveur tropicale espérée. Hein. À cette époque, c'était il y a 3 semaines, les températures oscillaient plutôt entre moins 2 et 8 degrés au large des côtes canadiennes. Face à l'écho rencontré par cette affaire sur les réseaux sociaux, Virgin Voyage a présenté ses excuses au couple, mais sans consentir pour autant un remboursement. En cas de météo défavorable, les changements d'itinéraire font souvent partie des conditions générales des opérateurs de croisière. Et donc, la compagnie Virgin ne compte pas rembourser cette croisière finalement plus fraîche que prévu.
Wow! OK. Et ils ont, je pense qu'il faut vraiment lire les petits écrits. Tu sais ce qui est écrit tout petit dans les contrats?
Les PDF
parce que probablement que c'était quelque part là-dedans. À l'avenir, il faudra vérifier ça.
Oui, quand vous réservez un voyage.
Bon, alors, des saumons coqués.
Oui, une autre insolite un peu plus sérieuse, mais je voulais en parler aussi, ça m'a surpris. Bon, on le sait que l'action de l'homme a un impact sur l'environnement.
Tout à fait.
Mais c'est parfois assez surprenant, inquiétant hein, de mesurer à quel point nous avons un impact. On parle effectivement de saumon ici exposé à la cocaïne présente dans l'eau. Qui parcourt de plus longues distances. C'est ce qu'a révélé une enquête. Des chercheurs ont prélevé ainsi une centaine de saumons sauvages. C'était en Suède, des saumons sauvages de l'Atlantique prélevés dans le lac Vättern en Suède et les ont exposés à la fois à de l'eau complètement pure et aussi à de l'eau qu'on peut retrouver dans nos cours d'eau et qui contient malheureusement des traces de cocaïne. Ils ont ensuite les ont relâchés, les ont suivis. Sans grande surprise, il y a bien un impact. L'emprise de la cocaïne est le suivant. Les saumons parcourent une distance deux fois supérieure aux saumons normaux après avoir été exposés à une telle...
Ils remontent les cours d'eau.
Ah oui.
Et en fait, ils sont tellement excités qu'ils font deux fois.
Exactement.
Hein, ils
se déplacent beaucoup plus. Les chercheurs ont averti que la pollution des eaux par les drogues ou les médicaments, il n'y a pas seulement les drogues, représentait un risque majeur et croissant pour la biodiversité. Et donc, tout changement anormal dans le comportement animal est préoccupant. C'est ce qu'a confié Marcus Micangeli, qui est co-auteur de l'étude. Nous constatons des concentrations de plus en plus élevées, non seulement des drogues illicites, mais aussi de tout type de produits pharmaceutiques dans nos cours d'eau.
Des traitements hormonaux, entre autres, et tout ça. Et ça a un impact sur l'environnement. Et malheureusement, on a beau traiter les eaux, ça reste.
Exactement. Et tout ça, en fait, cette étude sur les saumons se fait l'écho d'une autre étude qui a été publiée un peu plus tôt. C'était en Europe. Il y a une vaste étude qui a été menée dans 26 pays, dans 128 villes, qui ont analysé les eaux usées qui ressortaient des villes et qui ont montré... pour l'année 2024, par exemple, une augmentation des détections de pas seulement de la cocaïne, malheureusement, mais aussi de l'ecstasy, d'amphétamines, toutes sortes de produits chimiques. Et c'est en augmentation. La seule qui est en diminution, c'est le cannabis. Donc
depuis que c'est légal, les gens en prennent plus.
Peut-être que c'est ça. Le problème de la cocaïne est gros dans le monde. Selon l'ONU, plus de 25 millions de personnes en auraient consommé ce stimulant en 2023, et ça augmente malheureusement chaque année. Et donc, un des effets inattendus, c'est que les saumons nagent plus vite, plus loin, à cause de ces composés.
Ça se demandait maintenant comment les gens vont faire maintenant qu'il n'y a plus de paille de plastique.
Oui.
Je pense que c'est des billets de banque qu'on prend maintenant. Bon, merci beaucoup, Louis de Bernis.
Avec plaisir.
De fuir qu'on pense, dans l'inconfort tu compenses. Tu commences à t'en sortir, mais tu retombes dans ce qui te condense. Ça vient toujours de quelque part, mais quelque part ça vient de toi. Ça fait tomber le décor, d'accord, mais c'est pour te faire voir ce que tu te fais croire. Tu voudras souvent la nier, la cacher dessous l'évier. Mais la vie est faite pour que l'évidence ne puisse pas être évitée. Chaque douleur est comme un langage, chaque malheur est un message. Chaque humeur est de passage et chaque peur te rend plus sage. Tout ça fait partie de la vie, mais la vie fait partir tout ça. Plonge au fond de ce que tu fuis, le remède se cache là. C'est toi la source, c'est toi la source, c'est toi la source qui donne, qui offre, qui vit. C'est toi la source, c'est toi la source, c'est toi la source qui donne, qui offre, qui vit. C'est vrai que parfois ça frappe fort, ça percute, ça perforce, ça fait éclater tes rêves que t'avais pas rêvé encore. Ça te fait arrêter des projets qui n'étaient pas des projets. Ta confiance est dans les déchets, tu veux la retrouver mais c'est un projet. Le Brésil est dans la ville pendant que toi t'es en février. Les gens s'amusent, c'est décalé, décalé dehors, c'est égaré. Pour refaire ton compte en banque, qu'on se comprenne, qu'on s'entende. Que t'en gangues autant que t'en veux, y'a jamais rien qui comble en manque. Ton silence d'aujourd'hui, c'est l'écho de ton crieur. Offre-toi un temps de répit, le temps de t'en faire une crinière. C'est toi la source, c'est toi la source, c'est toi la source qui donne, qui offre, qui vibre. C'est toi la source, c'est toi la source, c'est toi la source qui donne, qui offre, qui vibre. À partir de toi,
le départ de ce qui t'arrive. Toi t'es libre de faire tes choix, mais t'as pas le choix de faire des choix. Entre toi qui vois ton ombre et toi qui vois ton éclat. Entre toi qui tombe et sombre et toi qui ne baisse pas les bras. Oui c'est ça, oui je te vois. Tu te lèves, tu redresses les chines. Un flambeau dedans l'aura, un fighter dedans le ring. T'as des trésors au bout des doigts, t'as la Shakti, t'as le hara. T'as le mojo dans la peau, t'as la puissance qui s'affine. T'as la rivière qui se libère, t'as la lumière dans la rétine. T'as le tigre, t'as la voix, mais dis-moi toi est-ce que tu vois. C'est toi la source, c'est toi la source. C'est toi la source qui donne, qui offre, qui vibre. C'est toi la source, c'est toi la source. C'est toi la source qui donne, qui offre, qui vibre.
Mathieu Lippé et sa chanson « C'est toi la source ».
Le festival Accès Asie entreprendra sa 31e édition ce vendredi 1er mai. Nous recevons son directeur artistique Zia Tabassian. C'est aussi un musicien dont la virtuosité au tombak et aux percussions a résonné dans plus de 40 pays. On va en parler d'ailleurs de ça. Formé à l'Université de Montréal et auprès de grands maîtres orientaux, il assure, comme je viens de le dire, la direction artistique de ce festival qui, depuis 1995, transforme Montréal en un carrefour majeur pour les arts asiatiques. Bienvenue la mission d'hier.
Merci beaucoup.
Alors, pour lancer cette édition 2025, vous proposez dès le 1er mai une soirée festive avec des artistes comme Soleil Launière et Ran Wang. Pourquoi cette rencontre entre des racines traditionnelles et des expressions plus contemporaines ou expérimentales?
Mais en fait, premièrement, c'est notre cérémonie d'ouverture du festival. Oui. C'est le mois du patrimoine asiatique, le mois de mai. Et aussi, on est à Jiuquan, Montréal. Oui. Et pour moi, c'est important de commencer la cérémonie avec une artiste autochtone, une artiste d'ici, pour reconnaître les ancêtres, pour dire que nous, on est ici pour, en tant qu'invités. Et on respecte le territoire ici et on vient ici pour avoir une rencontre, des échanges. Donc pour moi, inviter Soleil Launière, c'était... Premièrement, le fait qu'elle a accepté de venir faire ça, j'étais très touché.
Et toute une artiste aussi, oui, on l'aime beaucoup, oui.
On l'aime beaucoup. J'étais très touché qu'elle accepte de venir faire... Donc, en fait, la cérémonie va commencer avec elle.
Avec elle.
Et après ça, Ran Wang, c'est une musicienne d'origine chinoise. Mm-hmm. Elle joue le guzheng, un instrument traditionnel. Mais avec son instrument, elle est capable de faire les discours plus contemporains. Ah. Donc, elle va être avec une performance avec la danse... de Komodo, qui fait la danse urbaine.
Komodo.
Oui.
C'est une danse urbaine, vous dites?
Non. L'artiste, il s'appelle Komodo. Ah, c'est le nom de l'artiste. Donc, ce serait une rencontre entre la danse et la musique chinoise.
D'accord. Comment on fait pour assurer donc une espèce d'équilibre entre le traditionnel, comme on dit, et l'expérimental? Quand on fait un festival comme ça, c'est pas facile là, de faire tous ces choix-là, puis de s'assurer d'aller rejoindre le plus de public possible. Hein?
Oui, surtout aussi, c'est le Festival Accès Asie, c'est très large. Premièrement, dans les territoires, c'est tout le continent asiatique. Après ça, toutes les formes d'art, et après ça, toutes les formes d'expression de traditionnelle ou contemporaine. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose que moi, depuis, comme vous avez dit, je suis musicien, dans ma pratique, ça a toujours été là depuis que j'étais au cégep. Je faisais musique traditionnelle iranienne, mais aussi musique contemporaine, musique jazz, musique du monde. Donc, j'ai toujours aimé avoir plein de différents styles parce que je trouve que chacun apporte à l'autre. Ouais. Donc, c'est comme une richesse, en fait.
Ce qui est intéressant aussi cette année, je voyais, parce que j'ai parcouru tout un programme, on aurait juste lire le programme, on en aurait pour 12 minutes tellement il y a de choses, mais je retiens des trucs intéressants. Un open mic, hein, parce qu'on ouvre à d'autres performances. Comment ça joue dans l'accessibilité que vous voulez démontrer là, dans votre festival?
Oui, en fait, Open Mic Asiatique, c'est des événements qui est organisé par Claudia Chantak. Depuis plusieurs... Claudia et son collègue, J'ai oublié le nom. Oui, mais il organise des open mic depuis quelques années. Et là, c'était, pour moi, c'était important d'aller les accueillir dans le Festival Accès Asie aussi, de donner la place à la relève.
Et si je comprends bien, c'est le soir de open mic, les gens se présentent et décident, ben moi, j'aurais peut-être un numéro à faire, c'est
oui,
ça?
Oui, mais en fait, on a, vu que c'est dans le cadre du festival, oui. On a invité quelques coups de cœur mic de précédentes. Donc, d'accord. Il y aura 5 artistes qui vont faire leur présentation et à la fin, ce sera ouvert aussi au public qui veulent...
C'est toujours intéressant, les open mic, parce qu'à les micros ouverts, on trouve parfois des performeurs ou des artistes qu'on ne connaissait
mais
pas.
Mais voilà, moi, j'en ai découvert, à travers ces open mic, j'en ai découvert des artistes qui vont, par exemple, des Moon and I, c'est un artiste très, qui va performer aussi au Jardin Gamelin le 29 mai.
Je vais certainement vous poser des coups de cœur tout à l'heure, mais je vais quand même parler de vous, Zia, parce que vous allez, le 19 mai, vous serez à la salle Bourgie. Alors, vous ne serez pas directeur artistique, non. Vous allez être interprète dans le spectacle La flûte à travers le monde. Alors, on parle d'une dizaine d'artistes, dont Shunitsu, et Mika Putterman, pour explorer cet instrument sur toutes ses latitudes. Alors, parlons justement de qu'est-ce que ce sera, ce
spectacle?
Oui,
en fait, c'est un projet qui est porté par Bruno Deschênes, un musicien de shakuhachi, le flûte japonaise. Et le concert a été planifié il y a plus de 2 ans. Donc, c'était avant que j'arrive à la direction du festival. Donc, j'étais artiste, je vais être comme percussionniste dans ce concert-là et compositeur. Mais voilà, c'est le projet porté par Bruno Deschênes et qui rassemble différentes traditions de flûte à travers le monde.
Le fait d'être directeur artistique, mais de quand même d'être sur scène, ça vous garde pas un peu le contact aussi avec le plancher, si on pourrait dire, avec la scène, avec la réalité?
Oui, c'est ça. Je me trouve chanceux, en fait, de pouvoir faire les deux côtés. Et en tant que directeur artistique aussi, je sais les besoins des artistes. Parce qu'en fait, même en tant qu'artiste, moi, j'ai eu la chance de performer plusieurs fois avec le Festival Accès Asie dans le passé, depuis 2002, en fait.
C'est vraiment pluridisciplinaire ou multidisciplinaire, ce festival. Il y aura aussi le cinéma.
Oui, le cinéma. En fait, il y a une projection de Mai Saigon le 17 mai au Cinéma Moderne. C'est la journée contre l'homophobie, la transphobie. Donc, il y aura ce
donc, on est vraiment dans l'intersectionnalité, la journée de lutte contre l'homophobie, la transphobie. Vous allez avoir un film qui va porter donc sur ce phénomène-là ou sur le, j'imagine...
Oui, Mai Saigon, en fait, c'est un film sur le travesti au Vietnam. En fait, c'est un film très intéressant.
Je n'ai pas vu encore, je vais probablement aller le voir.
À voir, c'est vraiment très touchant. Et aussi, on parlait de cinéma, notre troisième édition de compétition de court-métrage, Asiat en cours, qui se déroulera le 28, 30 et 31 mai au Cinémathèque québécoise.
Alors ça, on donne une place assez importante au cinéma. Pourquoi?
Je pense que c'est pourquoi si vous dites plus,
pourquoi le cinéma c'est important dans ce festival?
C'est important comme toutes les autres formes d'art. Asiat en cours, en fait, c'est une compétition court-métrage qu'on développe depuis 3 ans. Donc, il y aura 27 courts-métrages qui vont être en compétition.
Là, j'ai vu, on parle d'ateliers de cuisine iranienne.
Oui.
Et des explorations sonores à la Sala Rossa. Il y a beaucoup de choses.
Oui.
Cuisine iranienne, ça, j'imagine, ça vous parle, ça.
Oui, en fait, je dis pourquoi pas. Moi, je suis d'origine iranienne. Oui. Donc,
l'Iran fait partie de l'Asie.
Bien sûr. Mm-hmm. C'est ça, comme je dis, le continent asiatique va jusqu'à l'est en ouest. Donc,
D'accord. Donc, la cuisine iranienne, qu'est-ce qu'on mange?
En fait, il y a deux trucs au menu. Ça va être dou piyazé et mirza rassemi, deux plats iraniens.
Qu'est-ce que c'est? Moi, je suis curieux.
Mais en fait,
vous parlez à un homme qui aime beaucoup manger.
Mais il faut aller voir l'atelier pour découvrir. Mais c'est en fait des plats végétariens avec aubergines et l'autre avec des pommes de terre. Mm. Donc, c'est des entrées très délicieuses à découvrir.
C'est végétarien.
Chez les affûtés village.
Oui. Parlons peut-être de tout ce que l'art joue dans... On est dans un monde assez difficile, disons-le, notamment dans les relations entre différents groupes, que ce soit culturels ou d'identités différentes. Non pas que... Je le dis parce que c'est la réalité. Mm. Alors, ce festival joue-t-il un rôle pour essayer d'atténuer ces divergences entre les groupes?
Oui, mais en fait, je pense que juste l'art crée, je pense, des liens entre les gens. L'art peut apaiser les gens. Pour moi, en tant qu'interprète aussi, quand je fais de la musique, j'essaie toujours d'amener une paix. Premièrement, pour moi, quand je suis sur scène, pour le temps, j'oublie les actualités et je peux vraiment penser plus à une paix dans le monde. Donc, c'est ça que j'essaie de propager à travers le festival.
En partageant, oui, avec les gens. Les coups de cœur, vos coups de cœur pour ce festival. Il y a des choses importantes à virer.
Mais en fait, il y a des spectacles que j'ai très hâte de voir. C'est Archipel Sonore. C'est avec deux musiciens de Bali, musiciens balinais qui sont à Montréal, et aussi quatre improvisateurs montréalais. Donc, première partie, ce sera le duo Sirat. Et deuxième partie, Navid Navab, Rainer Wins, Sam Chalabi et Maya Kuroki qui vont faire une improvisation à différentes sonorités.
Et tous ces événements-là, j'imagine qu'il faut se procurer des billets. Est-ce qu'il y a une billetterie disponible en ligne?
En fait, il y a beaucoup d'activités qui sont gratuites dans la Maison de la Culture. Il y en a d'autres qui sont payants. Et toutes les informations sur notre site web, www.accesasie.com. Donc, accesasie.com, on va voir toutes les activités du festival.
J'aimerais parler à vous, Zia, parce que, bon, vous n'êtes pas sans savoir que l'actualité internationale nous rattrape tout le temps. Ce qui se passe en Iran, c'est quand même le pays de vos origines. Oui. Comment vivez-vous ça?
Mais c'est assez difficile au début, surtout quand la guerre a commencé en janvier. Parce qu'en fait, j'ai vécu en Iran lors de la guerre, l'Iran-Irak.
Oui.
Donc, dans ma mémoire, ça revenait. Mais j'ai appris à prendre du recul et prendre ça avec un peu plus de calme. Puis malheureusement, je n'ai pas encore pu parler à ma famille en Iran parce qu'il n'y a pas d'Internet, on ne peut pas appeler.
Depuis le début de l'année?
Oui, mais j'ai des nouvelles par mes cousines qui sont en Italie, d'autres membres de famille qui sont à l'étranger. Donc c'est difficile, j'avoue.
C'est difficile. Ouais. Alors, est-ce que ce festival pourrait aussi être un lieu de rassemblement pour les gens qui ont besoin d'un peu de réconfort?
Oui, j'espère aussi, c'est ça. Parce qu'on accueille tout le monde, et tout le monde est bienvenu. Pour moi, c'est important de se rassembler et de se soutenir dans ce temps.
Bien, je voudrais remercier donc Zia Tabassian. Merci beaucoup. Le Festival Accès Asie, c'est le plus ancien festival en passant au Canada dont la mission est de promouvoir les arts, la culture et l'histoire des personnes d'origine asiatique à l'occasion du mois du patrimoine asiatique qui est en mai. Merci beaucoup et bon succès.
Bien, merci à vous.
C'était interprété par l'invité qu'on avait avec nous tout à l'heure, Zia Tabassian, qui est également directeur artistique du festival Accès Asie. J'ai le temps de vous lire une courte nouvelle. Alors, dans un entretien récent avec la Presse Plus, là, du 26 avril, la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, Christine Groulx, soulève des enjeux éthiques de l'intégration d'intelligence artificielle en santé mentale. Bien que les algorithmes puissent faciliter l'accès aux soins et offrir un soutien préliminaire, la Dr Groulx souligne qu'ils ne peuvent pas remplacer l'alliance thérapeutique et le jugement clinique essentiel au traitement des troubles complexes. Elle met en garde donc contre les risques de dépersonnalisation et souligne l'importance d'un encadrement législatif rigoureux pour protéger les données sensibles des patients. Des gens qui, des fois, pour pouvoir trouver une psychologue ou un psychologue vont demander à ChatGPT ou à Gemini de leur donner des conseils. Alors, selon elle, l'IA peut demeurer un outil complémentaire sous supervision humaine plutôt qu'un substitut aux professionnels de la santé. La formation continue est désormais une obligation déontologique pour les psychologues souhaitant utiliser ces nouvelles technologies. L'Ordre des psychologues du Québec regroupe plus de 9000 membres et, selon un récent sondage léger, un Québécois sur deux, 52%, a déjà consulté un psychologue dans sa vie, dont 1 sur 7 dans la dernière année, et puis contre 15% en 1992, quand même une grande augmentation. Les hommes consultent moins que les femmes, 42% pour les hommes contre 63% pour les femmes. Encore le temps de lire un autre petit texte important dans nos paractualités. La multiplication des faux chiens d'assistance suscite une méfiance croissante qui nuit aux utilisateurs d'animaux certifiés, rapporte Radio-Canada, c'était hier ça. La Fondation Mira et d'autres organismes dénoncent l'accès facilité à des harnais et des certificats non officiels en ligne permettant à certains propriétaires de contourner les interdictions dans les commerces et les transports. Cette confusion entraîne une augmentation des refus d'accès illégaux pour les personnes vivant avec un réel handicap malgré les protections offertes par la Charte des droits et libertés de la personne. Les utilisateurs de chiens guides et d'assistance subissent aussi des interrogatoires plus fréquents et une stigmatisation accrue lors de leurs déplacements quotidiens. Les intervenants réclament une normalisation des certifications au Québec pour mieux distinguer les animaux entraînés des simples animaux de compagnie. La Charte des droits et libertés de la personne du Québec interdit toute discrimination sur la base du handicap. Je vous rappelle aujourd'hui que c'est une journée qui va faire beau et on annonce jusqu'à 23 degrés dans le sud du Québec, un petit peu moins chaud dans le reste du pays, mais quand même, on en profite. Et après la pause, on va parler donc d'Altergo. À tout de suite!
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
C'était Vaillance et la chanson « Envie de me reposer ».
On va aller rejoindre maintenant notre chroniqueur sportif, Dominique Tremblay. Allô, Dominique!
Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui?
Ça va très bien. Quand il fait beau comme ça, on est toujours de bonne humeur. Et on va parler d'Altergo. Alors, rappelons, qu'est-ce que c'est?
Ben, c'est le défi sportif Altergo qui se déroule présentement un peu partout, là, dans plusieurs sites sur l'île de Montréal et sur la rive sud. C'est la quatrième journée de compétition aujourd'hui, mais en fin de semaine, il y avait encore plein de choses intéressantes.
Ben, allons-y justement, c'était donc une fin de semaine de première.
C'est en plein ça. Il y a eu pour la première fois un championnat canadien de rugby en fauteuil roulant féminin. Donc, 21 athlètes de partout au Canada se sont réunis dans les gymnases du centre Trois-de-Robillard pour un tournoi à la ronde de 3 équipes. Donc, chaque équipe avait 7 joueuses et ils ont joué un tournoi à la ronde. Et en finale, ben, c'est les Western Lights qui ont remporté le match. On parle des Lights parce que le nom de l'équipe canadienne de rugby en fauteuil roulant féminin s'appelle les Northern Lights. Donc, les équipes étaient divisées en Western Light, Central Light et Eastern Light. Et donc, c'était l'équipe de l'Ouest qui a remporté la médaille d'or. Tout un accomplissement pour ces demoiselles qui s'en donnaient à qui mieux pardon, sur les terrains du centre de Bière. Et félicitations à elles.
Alors, là, on va parler de ces compétitions. Qu'est-ce qui est possible là, dans tout ça? Là?
Ben, c'est que c'est la première étape pour avoir une compétition de plus solide et plus régulière. Il y a déjà des compétitions internationales de rugby en fauteuil roulant qui existent pour les femmes depuis quelques années, surtout à Paris. Donc, le Canada a participé à la compétition l'année dernière. Et ça s'est très bien déroulé. Les filles veulent continuer à progresser et peut-être que la version féminine soit acceptée aux Jeux paralympiques d'hiver. On vise peut-être les Jeux paralympiques de 2032 qui vont être en Australie ou peut-être plus réalistiquement 2036. Ils suivent à peu près le même programme de développement que le hockey. Le para-hockey féminin, qui vise aussi d'être introduit aux Jeux paralympiques d'hiver. C'est une belle relation là, qui vient de se développer entre les joueuses canadiennes et le défi sportif. Le défi sportif est une plateforme extraordinaire pour que des compétitions nationales, comme celles qui sont sur déroulées en fin de semaine, puissent se poursuivre au cours des prochaines années. Et pour Mélanie Labelle, qui est une des porte-paroles du défi sportif, ça a été toute une fin de semaine pour ce premier tournoi canadien et elle espère qu'il y en ait plusieurs dans le futur.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres résultats qui sont dignes de mention?
Donc, il y avait deux autres compétitions importantes en fin de semaine. On parle du para-hockey, une compétition junior qui se déroulait à l'aréna. Ça s'est très bien déroulé. C'est le para-hockey là, a gagné énormément de popularité au cours des dernières années au Québec, surtout par l'entremise, encore une fois, du défi sportif. Et là, c'était des jeunes qui jouaient. Et puis, il y avait beaucoup de parents dans les estrades. Une nouvelle là, sur le site Internet du défi sportif Altergo. Les parents sont très fiers et contents de voir leur enfant, jouer au para-hockey puisque tout le monde aime bien le hockey, c'est notre sport national. En plus, présentement, les Canadiens là sont en série éliminatoire, donc c'est très passionnant. Et là, maintenant qu'on puisse que les jeunes qui ont un handicap puissent faire du para-hockey, c'est quelque chose de très bien. Et on peut voir une progression, puis une amélioration, puis peut-être que c'est un premier tremplin pour se rendre aux Jeux paralympiques. C'est vraiment quelque chose de spécial. Il y a aussi une compétition nationale de boccia qui s'est déroulé à l'aréna Maurice Richard. Il y avait une quarantaine de joueurs de partout au Canada. Ça s'est bien terminé. Les médailles ont été remises en fin de journée. Donc, ça a été une fin de semaine très occupée lors du défi sportif Altergo.
Et qu'est-ce qu'il y a à surveiller aujourd'hui?
Alors, encore des compétitions scolaires qui se déroulent partout à l'intérieur du centre Trois-de-Rivières, à l'intérieur et aussi à l'extérieur, des compétitions de baseball, par exemple, ou de hockey costume. Il y a aussi des compétitions qui débutent pour la Coupe du monde de boccia qui se déroule encore une fois à l'aréna Maurice Richard. Donc, il y a 22 pays qui participent, à peu près 86 athlètes de partout à travers le monde. Et il y a aussi un tournoi, le championnat canadien de curling en fauteuil roulant qui débute ce soir et qui va se dérouler toute la semaine et qui va conclure en fin de semaine. Donc, beaucoup d'activités dans le cadre du défi sportif Altero. Et je vous invite de venir faire un petit tour si vous avez le temps.
Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer et qui veulent regarder, je pose la question, il y a quelque part sur Internet qu'on peut, pour ceux qui peuvent le faire, regarder ou écouter?
Oui, c'est ça. Il y a quand même de la diffusion web là, sur Internet des compétitions de boccia et de d'autres sports. Tout est disponible sur le site Internet de Défi Sportif Altergo. On pourra peut-être mettre le lien non, sur les différents médias sociaux de Vues et Voix, mais je vous conseille de jeter un petit coup d'œil.
Ben, c'est bien parfait. Ça fait que t'es de retour demain, puis nous, on se reparle lundi prochain.
Avec plaisir.
Merci
bonne
beaucoup.
Semaine.
Au revoir.
Au revoir.
Au final, on n'y gagne pas grand-chose. Ça sert à rien de descendre aussi bas. Tu trouveras pas ton compte. Tout ce qui te reste, c'est la honte. Ça sert à rien. Rien. Ça sert à rien. Rien. Ça te rassure devant les autres. Fais croire que personne peut y échapper. Tu cries plus fort s'ils sont par terre. Et tu as peur s'ils ne veulent pas se taire. Ah, 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 ah. Non, tu devrais pas faire ça. Non, t'es pas comme ça. Non, tu devrais pas faire ça. Rends-toi pas jusque là. Non, tu devrais pas faire ça. Non, t'es pas comme ça. Non, tu devrais pas faire ça. Rends-toi pas jusque là.
La chanson « Ça sert à rien » de Aïka.
On va parler théâtre maintenant, dès le 18, dès le 28 avril. Décidément, les chiffres et moi, ces jours-ci, ça ne va pas de pair. Hein? Alors, dès le 28 avril, la salle principale du Prospero, du Théâtre Prospero à Montréal, se transforme en galerie d'art pour accueillir une figure fantomatique, mais ô combien incendiaire. Là, si je ne prononce pas bien le nom, on va me corriger. L'Arme de Ploz. C'est une pièce de théâtre qui nous plonge dans un univers où la fiction contamine le réel. Et pour en parler, je reçois celui qui a orchestré ce projet singulier, l'auteur et metteur en scène, Christian Lapointe. Bonjour, Christian.
Bonjour.
C'est comment ça se prononce déjà?
En néerlandais, parce que c'est un nom que ouais. J'ai inventé qui serait flamand ou néerlandais, on dirait L'Arme de Ploz.
L'Arme de Ploz, d'accord.
Ouais, mais ça se lit, on le lit naturellement L'Arme de Pleurs, puis c'est ça, c'est un peu ce jeu là, sur la langue. Là.
Ah bon, donc cette pièce met en scène une artiste néerlandaise, L'Arme de Ploz ou L'Arme de Pleurs, une figure radicale surnommée la Reine du Scandale qui, on apprend assez vite, n'existe pas. Mais pourquoi avoir eu donc besoin de ce masque, cette invention pour parler de la fonction politique de l'art aujourd'hui?
Ben, en fait, je m'étais amusé à écrire sous ce pseudonyme. J'ai écrit plusieurs pièces que j'ai montées dans ma vingtaine. Ça faisait longtemps que j'avais écrit une pièce pour monter moi-même. Là, j'ai monté plutôt comme metteur en scène.
Parce que depuis 2012, hein, que vous n'avez pas écrit, Christian?
Mais dans ma vingtaine, j'avais écrit 5-6 pièces que j'ai montées moi-même. Et là, j'avais j'avais une envie d'écriture qui revenait. Bon, j'avais jamais quitté vraiment ce travail, mais je m'étais dit, ah, tiens, si j'écrivais sous un pseudonyme, est-ce que ça me permettrait d'écrire des choses que moi, j'écrirais pas, tu sais? Puis là, j'avais trouvé ce nom. C'est en trouvant ce nom que j'ai eu envie de faire cette expérimentation. Et puis, je commençais à écrire une pièce qui s'appelait Revanche. Puis à un moment, j'avais écrit 4 scènes, puis je m'étais arrêté un peu, puis je m'étais dit, ah, faudrait que je reprenne ce travail d'écriture sous un pseudonyme, avec cette espèce de calembour là, comme nom de pseudonyme, comme pseudonyme. Puis tout d'un coup, je me suis dit, ah, tiens, mais si je me mettais à écrire à propos de cette personne-là pour découvrir qui elle est à la place d'écrire en son nom. Et là, je me suis mis à vraiment m'amuser parce que tout d'un coup, des scènes, ça devenait articles, critiques, affiches, manifestes. Et là, je me suis mis à inventer une bande d'artistes qui n'existent pas, les néo-tragiques. Et puis là, ça me permettait d'inventer comme un écosystème théâtral fictif, puis de mettre en jeu les enjeux autour de la création contemporaine. Et donc là, il y avait un plaisir d'écriture, un ludisme qui apparaissait pour moi qui était assez jouissif. Là.
J'étais au lancement de la programmation, je me rappelle, je pense que c'était au mois de d'août 2025. Vous étiez là, puis on a présenté puis c'est même dans le communiqué qu'on peut le trouver aussi, les commandements des néo-tragiques, dont ce groupe-là dont vous parlez. Et alors, il y a vraiment des trucs délicieux, hein. Il faut fuir les réseaux sociaux, jamais expliquer le sens de ses œuvres. Alors, cette autrice fictive là, qui refuse tout compromis, est-ce une façon pour vous, Christian, de faire une certaine forme, de critiquer une certaine forme de lissage ou de politesse qu'on voit dans la création contemporaine?
Ben oui, certainement. Mais c'est aussi pour dire que les artistes, il y a de la contradiction. Tu sais, le manifeste qu'ils font, là, les néo-tragiques, après, elle dit il ne faut pas donner d'entrevue. Après, elle donne des entrevues. Elle dit qu'il ne faut pas jouer dans une pièce à soi. Après, on apprend qu'elle a joué dans une pièce à elle. Et donc, c'est aussi pour dire que la pureté n'existe pas. Et donc, c'est pas une pièce à message. Évidemment, ça soulève des questions sans donner de réponse. Hein. C'est ça, je pense, moi, à mon sens, c'est ce que l'art fait le mieux. Tout à fait. Là. Mais donc, il y a une espèce de jeu d'enchevêtrement entre les questions de l'absence de radicalisme, mais aussi le radicalisme édulcoré, je dirais. Tu sais, des fois, on a l'impression que tout est osé, puis tout est. Alors que là, quand on fait quelque chose de vraiment exigeant ou de vraiment radical, ben, on n'a plus de mots pour parler de ça, parce qu'on a utilisé le mot osé pour parler de choses peut-être plus lissées, en fait. Et donc c'est aussi autour de cette question d'absence de radicalisme, mais aussi de radicalisme édulcoré ou de radicalisme comme marque de commerce ou comme fabrication d'objets de consommation aussi. Donc ça aborde ces sujets-là autour de l'art avec humour, mais tu sais aussi à la télé, au cinéma, au théâtre, les interprètes, les actrices, les acteurs, on va jouer beaucoup des corps de métier, hein, les personnages. Ça va être le prêtre, la policière, l'avocat. Tu sais, c'est beaucoup autour de la fonction du travail, les enjeux de figures fictives. Hein. Mm-hmm. Et donc, pour moi, cet écosystème de l'art, du théâtre, c'est aussi un travail comme un autre. Donc, c'est aussi de dire, ben, si on peut faire des séries sur des polices puis des séries sur des avocats, ben, on peut faire aussi du théâtre sur ce métier d'artiste, en fait.
J'ai vraiment hâte comment ça va être disposé sur scène, parce que là, je lisais qu'il y a des miniatures créées par Mathieu Arsenault qui représentent donc des moments de la vie de l'art, mais ça va être sur la scène, ce sera comme un galériste et une commissaire là, qui prépare le lancement de son livre à titre posthume, parce que là, je ne sais pas si je dévoile de quoi, mais en tout cas, l'art est morte.
Non, c'est tout très bien. Ouais. Oui, elle est morte. On ne sait pas si c'est morte par suicide ou si elle est morte, c'est un crime. Donc, c'est tout aussi, ça a des allures un peu d'enquête sur des gens qui s'intéressent d'art, qui reconstitueraient le portrait de cet artiste par fragments Donc, c'est des mécanismes de quand même de narratifs contemporains assez classiques, je pense, depuis 20 ans, là, ce jeu autour de l'invention de figures fictives qu'on essaie de recomposer. Là, l'idée que ça se passe dans une galerie d'art et que les gens qui nous parlent d'elle deviennent les figures de qui ils nous parlent progressivement, ça nous permet un jeu de distanciation qui nous amène vers l'identification, si j'ose dire.
Là, je vais nommer les deux interprètes, Silvio Arriola et Amélie Dallaire. Amélie Dallaire qui est hilarante. Alors, j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de difficultés à ne pas rigoler, mais là, si je comprends bien, donc, c'est un galeriste, une commissaire, puis on utilise donc des miniatures. Alors, pour juste avoir une petite idée de c'est quoi ce concept, comment ça va fonctionner?
Ben, en fait, c'est qu'il y a une espèce d'exposition avec des impressions 3D de personnages en situation qui reflètent les scènes de la pièce. Mm-hmm. Et puis, que Mathieu Arsenault a fait tout un travail, lui, dernièrement, de figurines. Hein. Il a fait des figurines de Claude Gauvreau. Il fait un peu des action figures du monde littéraire. Et donc, là, j'ai dit, pourrais-tu nous faire les figurines de l'univers de l'arme de Proust? Puis là, on a travaillé ensemble, puis... Et donc, oui, on filme en direct ces figurines, et là, c'est comme si on fait un cinéma de miniatures auquel on prête nos voix. Moi, j'avais fait, il y a 10 ans, j'avais fait dans La République du Bonheur, où on jouait avec des Barbies à l'effigie des interprètes, donc Noémie O'Farrell avait une Barbie à elle, par exemple, Eve Landry avait une Barbie à elle, Roland Lepage, et là, il y avait comme un jeu de filmer des poupées Barbie qui étaient faites à l'effigie des interprètes. Donc, à quelques reprises, moi, j'ai fait ce jeu autour d'un jeu d'échelle là, avec des miniatures. C'est quelque chose qui m'a intéressé à plusieurs reprises là, dans ma vie d'artiste.
J'ai vraiment l'impression qu'on va rigoler. Puis, comme je dis, j'ai mentionné Amélie Dallaire. Je pense que c'est une complice pour vous hein, dans ce genre de spectacle.
Ben, c'est la première fois qu'on collabore.
Ah bon?
Mais c'est sûr qu'elle a une dégaine, tu sais, je la connais comme personne depuis longtemps, puis elle a une dégaine très particulière qui me fait penser à cet univers flamand. Ouais. Elle a même sa dernière pièce, j'écrivais dans Le Devoir où je fais des chroniques aux 2 semaines. Pour moi, sa dernière pièce, Le Langage Clair.
Ah, c'était
un côté humour flamand qui était pour moi très équivoque, là.
Ouais.
Sans équivoque, je veux dire. Et puis, Silvio Arriola, ben, on travaille ensemble depuis 20 ans, donc c'est un complice de création. Il a joué dans presque toutes les pièces que j'ai écrites. Mais oui, on va rire parce qu'il y a de l'humour, mais il y a aussi de la tragédie. Donc, je dis que c'est une tragicomédie parce que la pièce Revanche, qui est une pièce inachevée de L'Arme de Plourse, à un moment, on entre dedans. Puis ça, c'est une pièce qui est plutôt tragique. Peut-être ce théâtre néo-tragique que ces artistes fictifs appellent. Et donc, on passe, oui, c'est ça, de l'humour au tragique dans un jeu de distanciation où on prête nos voix à des figurines puis on devient tout d'un coup ces figurines. C'est une pièce d'une heure, mais assez... une heure bien tassée avec plein de modulations. J'aime bien, moi... voir un peu mes pièces comme des poupées gigognes et puis chaque scène appelle une autre scène qui détruit peut-être la précédente et puis on varie dans les tons de théâtralité aussi.
Alors, on est dans cette espèce d'air de post-vérité hein, qu'on lance à gauche et à droite, puis dans votre pièce, vous faites parler une morte qui a jamais vécu. Alors, j'ai juste un petit peu de curiosité là, comment ça s'inscrit dans cette espèce de mouvance dont on parle depuis l'arrivée des Trumpistes et de cette post-vérité?
Ben, comment je dirais ça? La post-vérité, c'est à partir du moment qu'on l'a nommé qu'ils se sont mis à l'utiliser. Puis ça, c'est ce que font les artistes, nommer le monde pour le révéler. Moi, je dis, le poète, il va, pour parler de l'humanité, il va mettre 3 choses qui ne vont pas ensemble pour révéler comment est l'humanité. Donc, la phrase que j'utilise, c'est le poète va dire « primate à plume d'acier ». Hein, puis un primate, ça n'a pas de plumes, puis des plumes, c'est pas en acier. Pourtant, quand on dit primate à plumes d'acier, on se voit, nous, les êtres humains, assis dans un avion. donc, c'est ce que fait l'art. Hein. L'art amalgame ensemble des choses qui ne vont pas ensemble pour nommer le monde tel qu'il est et le faire apparaître, finalement. Et donc, quand on a dit « Ah, it's post-truth era »,
ouais.
Ben là, il s'est mis à s'en servir du dispositif qui a été nommé avant et il le faisait peut-être plus inconsciemment. Mais une fois que ça a été nommé, une fois qu'on l'a dit, une fois que les artistes se sont mis à nommer ça, les médias se sont mis à nommer ça, le monstre en question s'est mis à utiliser son mécanisme à plein régime. Et donc, je dirais, il y a ce travail de nommer le monde. La pièce Revanche est une pièce que j'aimerais appeler d'anticipation. Donc, qui parle d'un futur peut-être pas si loin. Et donc, en imaginant un monde futuriste, ça nous permet d'appréhender le monde d'aujourd'hui avec un travail sur la fiction. Mais les artistes de tout temps ont travaillé sur la fiction pour nommer le monde. Et donc, de tout temps, ont travaillé sur le mensonge. Et le théâtre est à propos du mensonge et de la vérité, de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et ce jeu, je pense que là, ici, il est vraiment très apparent dans ce travail que font les artistes sur scène, à porter ma parole sur la liberté, mais en même temps, il y a toute une réflexion sur le conditionnement, sur les interprètes qui, en fait, ne sont pas libres parce qu'ils travaillent sous l'égide de quelqu'un qui les dirige. Et donc, tout ce travail d'antinomie qui existe dans la pratique artistique, qui à la fois nomme le monde, mais peut-être aussi le malmène.
Ouais. En tout cas, on a bien hâte de voir ça. Je rappelle que L'Arme de Plours ou L'Arme de Pleurs, c'est vraiment très... J'aime le jeu de mots, effectivement. Présenté, Calembourg, c'est donc présenté au Théâtre Prospero à partir du 28 avril jusqu'au 16 mai. Christian Lapointe, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ben, merci beaucoup.
Merci. Bonne journée. Eh bien, Radio-Canada, hier, une conférence tenue récemment au Québec a mis en lumière les défis persistants de la santé mentale dans le secteur agricole où la stigmatisation demeure un obstacle majeur à la recherche d'aide. Malgré une augmentation des ressources disponibles, de nombreux agriculteurs hésitent encore à consulter en raison de la pression sociale et de la culture de force associée au métier. Les intervenants soulignent que le stress lié aux dettes, aux aléas climatiques et à l'isolement géographique fragilise particulièrement cette population. Les experts plaident pour une approche de proximité avec des sentinelles formées pour détecter les signes de détresse directement à la ferme. Cette sensibilisation vise à normaliser les discussions sur le bien-être psychologique afin de réduire les taux de détresse observés dans les campagnes. Au Québec, le métier d'agriculteur présente un risque de détresse psychologique deux fois plus élevé que celui de la population générale. Et puis, toujours dans Radio-Canada, hier, une conférence tenue récemment... Oups, pardon, je viens de lire ça. Des fois, on imprime deux fois la même page, on se fait prendre. Alors, dans la presse plus, 26 avril, dans un entretien récent, la présidente de l'Ordre, je l'ai lu aussi. Misère, je suis mêlé aujourd'hui, j'ai mes petits textes qui sont tous un petit peu qui se dédoublent. On vous revient. Bon, voilà la bonne pile de textes. Le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, c'est dans Ici est-il, le 25 avril, poursuit ses démarches pour la création d'une coopérative visant l'autonomisation financière des personnes vivant avec un handicap. Une deuxième rencontre de travail s'est tenue le 21 avril dernier avec des représentants de la Banque de la République d'Haïti et du Conseil national des coopératives et de l'Office de management et des ressources humaines. Les discussions ont porté sur la nécessité d'un fonds de garantie pour assurer la pérennité du projet pour l'établissement d'une structure rigoureuse pour prévenir la corruption. La Banque de la République d'Haïti a été créée par la loi du 17 août 1979. Et puis, communiqué de Paralympique, j'aurais pas le temps de vous lire ça. Je suis vraiment désolé aujourd'hui, j'avais deux piles de textes, je me suis trompé. Ça arrive, des petites erreurs comme ça. Hein? Ça vient avec l'âge et parfois avec beaucoup de choses à faire en même temps. Je vais remercier Mathieu Tessier à la régie aujourd'hui. Merci aussi à Hélène Denis. Bonne fête encore, Hélène, qui sera de retour demain, qui m'a aidé à la recherche. Moi, je vous donne rendez-vous cet après-midi à 17h pour l'heure où l'arc-en-ciel se lève. On va parler de politique municipale et de politiciens de la diversité sexuelle et de genre. On va recevoir Jean-Philippe Boutin, qui est le maire de Saint-Félicien. Puis on va aussi parler de M'infiltrer dans ta vie et on va parler aussi de cette télé-réalité M'entends-tu queer à Culture Queer dans cette émission. Merci beaucoup tout le monde. À la semaine prochaine.